Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine et conférencière Marie-Pierre Dillenzeger, praticienne des arts chinois consacrée aux forces spatiales et temporelles. Nous l'avions reçue à l'occasion de la sortie de son premier livre, La Voix du Feng Shui, publié aux éditions Duno. Elle nous avait alors initié au Feng Shui, une discipline issue de la sagesse chinoise dont l'art se résume à être au bon endroit, au bon moment. Je suis heureuse de l'accueillir à nouveau aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son dernier livre, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, chez Mama Édition. Dans ce livre, l'autrice nous donne 12 postures pour bouger, sortir de nos habitudes limitantes, aller à la rencontre de soi, de qui nous sommes et de ce pourquoi nous sommes là. Elle nous livre ainsi de précieux repères pour mieux se positionner, agir au bon moment et demeurer fidèle à soi-même dans une société de plus en plus exigeante et en perpétuel mouvement. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Amal.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Et ben c'est un plaisir partagé. Je t'accueille, enfin Blooming You t'accueille aujourd'hui pour parler de ton livre, enfin ton nouveau livre, mm-hmm. Oser s'accomplir, mm-hmm. qui vient juste après La Voix du Feng Shui qu'on a adoré chez Blooming You, dont on a déjà parlé. Vous trouverez le lien sur l'article faisant référence à cette interview. Alors, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi. Et je vois sur la quatrième de couve, oser s'incarner.
Oui.
Donc, voilà. Entre oser s'accomplir et oser s'incarner, moi, ça m'a fait sourire. Mais j'aimerais effectivement te faire réagir là-dessus.
Alors, pour moi, c'est un grand bonheur de voir que le ciel a réussi à faire oublier de remplacer le titre à l'arrière par le nouveau titre qui était proposé par l'éditeur. Donc, on se retrouve avec ce que, en fait, je voulais. Le sujet du livre, c'est de prendre notre place et d'occuper vraiment le territoire qui est le nôtre. Alors, je pourrais dire que s'incarner est là pleinement, est la condition qui permet l'accomplissement.
Alors, c'est quoi s'accomplir ?
S'accomplir ?
Au sens de Marie-Pierre.
C'est d'être en profonde résonance avec ce que nous sommes. C'est de savoir s'écouter. C'est d'oser s'aligner avec nos besoins profonds, nos envies, et considérer que cette vie n'est pas là pour nous prendre notre place. Cette vie va nous suggérer ou nous proposer souvent des obstacles, des difficultés qui vont nous permettre de nous rapprocher de plus en plus de ce que nous sommes vraiment. Et j'ai une image qui est, je pense souvent à une pierre précieuse dans la roche. On ne va pas la voir tout de suite, elle peut rester ignorée pendant longtemps, mais sans les coups de burin ou sans les coups de marteau ou sans l'outil qui va enlever la gangue qui est autour, elle ne verra jamais le jour. Donc, on peut comparer ces coups de marteau ou ces secousses qui lui permettent d'être à la lumière avec les difficultés, les obstacles que la vie nous envoie tous. Hein. Mon propos, il est de dire, voyez l'obstacle comme une difficulté, bien sûr, mais voyez-le aussi et peut-être d'abord comme une opportunité d'avancer vers ce que vous êtes.
D'accord. Donc, la vie, c'est quelque chose qu'on a besoin de sculpter, qui a besoin d'être sculpté.
La vie est à accueillir.
Ouais.
Hein. Plus nous sculptons les aspérités qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, bien, moi, nous allons nous accomplir.
Alors, comment...
C'est un peu chinois, ce que je viens de dire, hein.
Alors, en même temps, c'est votre spécialité.
C'est vrai. C'est vrai. Et dans cet ouvrage-là, toutes les références à la pensée chinoise sont clairement identifiables par des encadrés ou un changement de typographie. Donc on peut en fait même s'en dispenser, hein, parce que ce livre ne s'adresse pas à un public éclairé, il est vraiment pour tout le monde, en chemin pour être de plus en plus en force avec, avec les forces que nous avons. Mais je vous ai coupé.
Non, mais je vous en prie, c'est vrai qu'il y a plein de conseils pratiques. Ouais. Il est très didactique et pragmatique. Quel est, vous donnez pas mal d'exemples,
ouais,
que vous avez, j'imagine, rencontrés vous.
Ah oui, il n'y a pas un exemple qui n'est pas vrai, qui ne soit pas issu de ma pratique professionnelle. Et seuls les prénoms ont été changés. Hein. Tous les exercices sont... eux aussi issus de ma pratique professionnelle. Hein. Ils ont, je sais qu'ils marchent, ils sont simples, ils sont accessibles par tout le monde. Il y en a un seul qui m'a été transmis par un médecin il y a très très longtemps, qui est l'exercice de, pendant une semaine, dire non à tout.
D'accord.
Il n'est pas de moi celui-là, d'accord. Tous les autres sont de moi.
Ok. Même quand on a envie de dire oui ?
Oui. C'est de dire non systématiquement, pendant une semaine, à tout ce qui vous est demandé. Là, l'idée, c'est, si vraiment vous avez envie de dire oui, c'est de dire non d'abord, et puis ensuite, ah, mais je rigole. Mmh. Oui, bien sûr, cet exercice-là n'est pas pour tout le monde, mais il va être utile à quelqu'un qui a encore à avancer dans sa capacité à dire non. Mmh.
C'est pour beaucoup de gens, ça, la capacité à dire non. On est dans une culture quand même judéo-chrétienne, on nous apprend à nous oublier pour faire plaisir à l'autre.
Oui, moi ce que je souhaite, c'est de pouvoir déculpabiliser et ceux et celles qui en fait ont du mal à dire oui à ce qu'ils sont. Alors parfois ça passe par le dire non à quelqu'un d'autre, mais plus vous dites oui à cet instinct, ce ressenti qui vous dit ne va pas, n'épouse pas telle personne parce que finalement tu n'es pas si sûr de toi, ou es-tu vraiment sûr que le salaire envisagé va justifier les complications du boulot là. Tant qu'on ne dit, enfin, on va dire autrement, plus nous disons oui à cette voix qui nous cale sur nos fibres essentielles, moins sur le long terme, it's a process, hein, ça peut mettre c'est un chemin, moins sur le long terme, nous aurons à dire non à ce que nous ne voulons pas, parce qu'à un moment donné, les voies s'ouvrent, parce que l'énergie que nous dégageons étant tellement en résonance avec ce que nous avons à faire ici, je vais presque être un petit peu émue en le disant, que l'environnement le sait. L'univers vient à notre rencontre, comme ce titre que je souhaitais, qui était encore un petit peu trop tôt peut-être, à cette période-ci de notre histoire, qui finalement a réussi à trouver sa place au dos d'une couverture, alors que tout le monde avait cru l'avoir éliminée et relue.
Donc c'est quoi ? C'est une synchronicité ?
Ouais, c'est une synchronicité. Moi, je dis souvent que mon travail, il est au service de la création de ce que certains appelleraient des coïncidences heureuses. Alors moi, je sais que ce n'est pas des coïncidences, il y a un vrai travail derrière. Les personnes que je peux suivre, elles cheminent. Et en fait, il y a 12 postures dans le livre, il y a 12 chapitres, on devrait dire. 12 postures, et on peut le voir, donc 12 postures, on pourrait penser à 12 mois de l'année, donc à une durée, ou un chemin en 12 étapes. On n'a pas d'ailleurs besoin de commencer par la première. On peut ouvrir le livre et partir de l'endroit où on se trouve. Mais je pourrais faire l'analogie avec un chemin de montagne par étapes, ou un chemin de pèlerinage. Certaines personnes vont le faire, je pense à Saint-Jacques de Compostelle, vont le faire du début jusqu'à la fin. D'autres ne vont faire que des petits bouts. Au bout du temps, les petits bouts vont s'accumuler. Mais le livre est conçu pour nous permettre de nous approprier, par le biais d'exercices simples, faciles à faire, peu coûteux, une habitude, pour nous approprier des postures vertueuses et des habitudes qui nous sortent de l'ornière d'un quotidien qui souvent nous mange et dans lequel on s'oublie.
Donc, 12 postures pour transformer ses habitudes.
Bien sûr, pour bouger, parce qu'en fait, il y a derrière, dans ma pratique, il y a aussi un lien avec les arts martiaux, avec l'art de la guerre. Donc, c'est 12 postures qui nous permettent, moi je dirais, de bouger. Dès que vous bougez, et par exemple, faites un jour un petit peu différemment quelque chose qui vous coûtait, vous commencez à bouger. Et en général, vous faites un pas, l'univers répond. Donc oui, c'est pour sortir d'habitude, mais uniquement bien sûr si elles sont limitantes. Bien, moi, si tout va bien, et que ce soit en feng shui, si tout va bien, on ne change rien chez soi. Hein. Ce livre vient à la rencontre de ceux et celles qui, bien qu'étant peut-être tout à fait fonctionnants, ont quand même une petite voix qui leur dit... je ne suis peut-être pas encore complètement à ma place. Et la place, votre place, ce n'est pas celle qu'on vous donne. C'est celle que vous prenez.
Et quand la petite voix est étouffée, quel est l'autre indicateur pour nous faire comprendre qu'il faut bouger?
Malheureusement, c'est souvent la souffrance.
Vous en parlez
ou l'obstacle.
Beaucoup
ouais. Dans le livre. C'est-à-dire que l'intimité de ma pratique, il y a quand même, enfin, je suis le témoin d'une souffrance sociale et individuelle qui est absolument palpable. Donc pour moi, ce livre, c'est aussi parce qu'il y a urgence. C'est ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger. Je veux dire, on sort aussi d'un certain nombre d'années où c'est important de comprendre, d'expliquer, de faire des théories, etc. Là, on ne va pas les attendre, les théories supplémentaires. Nous avons la responsabilité, chacun, de bouger un petit peu. Et quand la situation est vraiment très difficile, moi je dis toujours, faites une chose différente chaque jour. Ça va servir à quoi? Ce n'est pas ça qui va vous changer de poste si c'est difficile au travail. Mais à partir du moment où, par exemple, au lieu de rentrer directement chez vous, vous faites le détour par la rue d'à côté qui est un floriste que vous aimez bien. Pas besoin d'acheter des fleurs, vous passez devant, vous regardez les fleurs. Ou pour une fois, vous tenez la porte, ou vous dites bonjour à quelqu'un à qui vous n'avez jamais dit bonjour, ou vous regardez dans le métro la personne en face de vous, puis vous lui souriez. Hein. Est-ce que ça va changer la difficulté dans laquelle vous êtes chez vous? Pas. Certainement pas. Et en tout cas, pas tout de suite. Mais au bout du compte, dans ce geste différent que vous allez poser, la vie va pouvoir s'infiltrer. Et je crois au cumul de petits actes vertueux répétés par chacun d'entre nous qui font que les personnes se regardent de nouveau ou se réintéressent à ce qui se passe à côté d'eux au lieu de rester enfermés, comme on peut tous le faire, dans une souffrance ou dans une l'idée, je dis encore autre chose, je pense que, par exemple, je vois les deux extrêmes. Je vois des personnes qui considèrent qu'elles peuvent tout faire partout, tout le temps. Okay. Puis après, il y a des obstacles, il faut gérer l'obstacle. Ou alors l'opposé, des personnes qui ont été tellement lessivées, qui considèrent maintenant que, ou qui ont fini par croire que, elles ne pourront jamais rien faire nulle part. Je caricature, mais c'est pas une caricature dans la vie autour de nous. Or, c'est ni l'un ni l'autre. C'est entre les deux qu'il y a à se positionner. Donc, les techniques traditionnelles ou anciennes chinoises, et pour moi, je suis passée par la voie du taoïsme, mais elles n'ont pas forcément besoin d'être chinoises. Les techniques, je reprends le terme vertueuses, qui ose investir dans une répétition de petites choses tous les jours. Elles permettent, sur le long terme, la voie du milieu.
Ouais. Vous parliez effectivement de l'inné et de l'acquis dans votre bouquin, et vous faites vraiment la distinction entre les deux, et notamment à un moment, ce qui est très pratique pour moi, jeune maman de deux petits garçons, vous faites pas mal de références à l'éducation et à ce qu'on transmet à nos enfants.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez un peu nous en dire un peu plus, notamment pour les valoriser?
Ouais. Alors,
futur adulte.
Alors, vous rappelez le do au titre de la quatrième de couve, hein, oser s'incarner. Hein. Donc, si on ose, même sans forcément aller trop là-dedans, mais si on ose vraiment voir chaque vie comme un potentiel majeur de déploiement de ce que nous sommes. Chaque vie n'est, enfin, dans le système occidental, je suis comme obligée de le dire ça, dans le système occidental, on a une vie, on tente de la vivre du mieux possible, et puis après, c'est autre chose. Hein. Mais il n'y a pas l'idée de pouvoir revenir. Donc, dans le système de pensée dans lequel mon ouvrage et ma pratique est issue, il y a l'idée de pouvoir déployer des parts, d'utiliser chaque vie pour déployer des parts. Il n'y a pas à tout faire dans une seule vie, on va le dire comme ça, simplement. Donc, derrière ça, il y a l'idée de ne pas arriver vide ou complètement vierge dans une vie. Hein. Mm-hmm. Notre culture, ces derniers siècles, a surinvesti l'idée que la personne arrive un peu vide et on va, par le biais d'une éducation scolaire ou autre et de codes, il y a plein de choses à apprendre qui vont remplir la tête. Hein. Or, moi, et donc du coup, je constate qu'on sous-estime l'inné, les capacités naturelles que l'on a. Certaines personnes sont capables de faire pousser des plantes mieux que les autres. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école. Donc, en tant que parent, vous avez un rôle à jouer qui est de mettre le pied dans la porte pour qu'elle ne se referme pas. Chaque fois qu'un enfant revient en disant « je suis nul en quelque chose » ou « là, je n'ai pas réussi à faire ça » ou « je n'ai pas eu telle note » parce que j'ai encore une fois dans l'intimité de mes consultations des personnes qui ne sont pas toujours remises d'un échec à un examen il y a 30 ans. Les dégâts sont colossaux. Alors, il est important pas de surinvestir, pas de faire le contraire, mais de créer dans un discours, dans un échange avec l'enfant et avec même avec des personnes, quel que soit leur âge, une place pour valoriser ce que lui et elle sait faire et qui ne tient pas forcément à un diplôme ou à une acquisition structurée. Hein. La manière dont va le monde, on va s'en sortir, moi je pense, parce qu'il y a, et on le voit à l'heure actuelle, la réémergence de savoirs anciens, la réémergence de personnes qui, bien que pouvant s'acheter des conserves au magasin d'à côté, vont réapprendre avec beaucoup de bonheur à les faire elles-mêmes. Il y a une palette de savoir-faire qui sont liés à des talents individuels qui est en train de réémerger. Donc là, tout ce que vous pouvez faire pour déculpabiliser un enfant quand il a à choisir une voie qui ne serait peut-être pas la royale, la voie royale, c'est la sienne, ce n'est pas celle que la société dicte.
Alors Marie-Pierre, oser s'accomplir, oser s'incarner, est-ce que ce n'est pas aussi avoir confiance en soi ? Qu'est-ce que ça veut dire la confiance en soi au sens de la sagesse chinoise ? Je vous parle de ça parce que moi, en tant qu'entrepreneur, la confiance en soi me parle vraiment intimement dans ma chair. Je parlerai même de foi, de profession de foi. Comment Marie-Pierre Dillenzeger, spécialiste des arts chinois, l'interprète Quelle est votre vision effectivement de cette foi, de cette confiance en soi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se matérialise? Comment ça se traduit pour un être humain dans sa vie de tous les jours, pour un entrepreneur, pour une maman avec ses enfants qui doit faire face à des aléas extérieurs qui peuvent aller contre effectivement ce qu'elle peut ressentir ou ce qu'elle peut voir chez son enfant, enfin, dans sa vie professionnelle, personnelle, enfin voilà.
Je rebondis, hein. Je dirais d'abord que la confiance en soi, c'est un... À terme, c'est un état. C'est un état. Hein. C'est un état de soi. Et elle ne peut s'installer en nous. J'ai pas dit elle ne peut se conquérir, elle ne peut s'installer en nous que si nous avons avancé dans notre capacité à être en cohérence avec ce que nous sommes et ensuite en alignement avec ce que nous savons de ce que nous sommes, de la conscience de nos limites. Les limites, ce n'est pas un défaut. Les limites nous permettent, définissent l'espace que nous avons à occuper. Donc, moi, de manière assez pragmatique, je me dis toujours de travailler ce qui nous rapproche de nous-mêmes, encore et encore. Et au début, ça va simplement être de repérer ce qui nous en éloigne. Il y a d'abord tout un travail de repérage de ce qui, dans les journées d'une jeune maman, finalement, désaxe. Hein. Et le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, ce n'est pas ça qui va désaxer. C'est d'avoir, par exemple, d'avoir à poser des actes dont on sait, quand on arrive à s'occuper, à vraiment s'écouter, des actes qui sont un petit peu décalés par rapport à ce qu'on sait qui est juste. Hein. Donc, la confiance en moi, c'est comme un oiseau qui va venir sur la mangeoire, naturellement, une fois qu'il y a vraiment les graines qu'il faut et qui y sont. Donc, je ne la vise pas. Par contre, j'investis continuellement dans la présence à ce que je suis et la rectification continuelle de ce qui m'éloigne de ce que je pense avoir compris que j'ai à faire dans cette vie-ci. Donc en fait, je ne le définis pas comme une fin en soi, je l'ai défini comme un état dans lequel je vais un jour me réveiller parce que tout le travail de nettoyage, d'élimination, de vigilance à cette gang, à ces cadres, à tout ce qui est de l'ordre de croyances limitantes, de codes, que ce soit sociaux, professionnels. Moi, je suis en fait pas du tout révolutionnaire, mais j'ai bien conscience que dans certains cas, nous avons à nous positionner par rapport à des codes qui seraient trop limitants par rapport à la valorisation de notre talent, par exemple. Mmh. Hein. Donc, on pourrait dire que la confiance en soi est la valeur ajoutée d'un travail continuel de vigilance et de présence à soi. C'est trop chinois, ce que je viens de dire ?
Non, c'est clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous prenez l'exemple qui m'a, moi, touchée, parce que c'est un exemple qu'on voit dans la vie de tous les jours, qui est malheureusement pas exceptionnel. La jeune femme, vous donnez l'exemple de la jeune femme qui a effectivement fait le ménage autour d'elle.
Oui, ouais, qui a beaucoup travaillé sur elle.
Qui a beaucoup travaillé sur elle, et puis qui se lance, qui décide de faire ce qu'elle aime, et puis qui, bam, tombe malade.
Oui, elle est rattrapée par une maladie. Et là, cet exemple, il est... Alors, tous les exemples, bien sûr, hein, ils sont vrais, mais cet exemple, il est emblématique de ce que j'appelle un choix d'incarnation. On va utiliser des mots un petit peu... choix d'incarnation, c'est-à-dire que là, elle est confrontée à une réalité qui est une maladie qui peut l'entraîner vers une conclusion qui serait la suivante. Tout ce que j'ai bougé n'aura servi à rien, ou je n'ai... C'était une erreur, hein, d'oser déployer mes forces. Donc, il y a une première lecture renforcée pour cette personne par le monde médical. Là, il faut stopper, il faut tout arrêter. Et donc, du coup, on oublie ce que vous cherchiez à faire. Mais à ce moment-là, elle a aussi la possibilité de dire que qu'elle a encore un peu... Je ne sais pas si je vais le dire comme ça, j'assume, hein, qu'elle est aussi face à la possibilité de ne pas conclure que c'est fini et que la maladie va le renvoyer à la case départ. Il y a des actes à poser, il y a eu un traitement à suivre, mais à partir du moment où, dans ce moment de repli, où elle a dû mettre ce qu'elle a lancé de côté, elle l'a mis en suspens, hein, dans ce moment de repli, à partir du moment où nous restons connectés avec la conscience de la valeur de notre être dans cette vie-ci, et pour elle, de la valeur de ce projet, elle a eu à régler, on pourrait dire, encore une strate, et d'ailleurs par tout le travail qu'elle a fait pour décoder sa maladie, parce que je pense que beaucoup de gens le savent à l'heure actuelle, hein, les maladies sont aussi des messages que nous envoie le corps, que nous pouvons écouter. Elle a donc l'obstacle nous donne très régulièrement la possibilité de reculer, d'abandonner et de nous aligner avec une lecture limitante de nous-mêmes ou de dire tiens, on me teste. Peut-être que là, cette fois-ci, je ne vais pas caler devant ce qui pour elle était un dernier obstacle par rapport à son lancement. Donc, ce que je pose, c'est que parfois la maladie est une manifestation de ce qui nous rattrape encore, hein, de limitants dont nous avons précédemment réussi à nous sortir. Donc moi, ce que je dis, c'est que les maladies, d'abord, c'est bien réel, on se soigne, on se traite, on fait ce qu'il faut, mais c'est aussi avoir presque comme un test de l'univers. Est-ce que l'on va se replier ? Ou est-ce qu'on va dire, maintenant que mes ailes sont ouvertes, bon, je vais me poser sur une branche pendant un petit peu de temps, mais je ne les refermerai plus jamais.
C'est très émouvant ce que vous venez de dire.
Oui, je suis émue aussi. Et le livre se pose aussi, enfin, je pense que j'espère, qui sera bien aussi compris comme ce qu'il est, c'est-à-dire il est déculpabilisant, hein, il est énergisant, il est au service de la vie. Là, on a même l'impression que la vie, parfois, elle disparaît. Regardez la biodiversité, regardez les espaces qui disparaissent. Ce livre, il est pas au service du bien-être, hein, il est au service de l'être. Et c'est en étant qu'on peut... Enfin, la question, il faut d'abord être avant de s'occuper de bien-être. Et donc, moi, c'est presque un cri d'alerte, hein. Il est temps que nous nous occupions chacun de la responsabilité que nous avons d'être pleinement en vie. Parce que c'est si... Moi aussi, je vais être émue. C'est parce que c'est si nous sommes pleinement à la hauteur des vibrations que nous portons, collectivement, nous allons pouvoir être agissants. Donc, il y a urgence. Et c'est... Et voilà.
Eh bien, merci Marie-Pierre.
merci Amal, et puis merci d'œuvrer justement pour que qu'on passe de cercle, qu'on arrive à des cercles vertueux, et puis qu'on se sourit les uns les autres, et qu'on se serre la main, et surtout que l'on sorte de notre sentiment fabriqué de solitude. Voyons-nous, parlons-nous. J'arrête.
Ben merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi. Je vais quand même rappeler aussi le titre de la quatrième de couvre. Oser s'incarner, 12 clés pour être soi. Aux éditions Mama. Mama édition. Voilà. C'est un beau cadeau que vous faites, ce bouquin, Marie-Pierre. C'est très pragmatique, il y a tout. Enfin, ça pourrait même être une bible.
C'est une boîte à outils. Ouais. On pourrait dire une boîte à outils. Et puis c'est bien peu de choses rendues à la vie.
Ah, bien, c'est très profond, très riche. Il y a beaucoup de sagesse. Non,
ça vous êtes ému, hein, je le vois. Oui.
Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais dire au revoir et à bientôt parce que là, je suis un peu. Mais voilà. Merci à tous pour votre écoute.
Merci à tous.
Au revoir. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Marie-Pierre Dillon-Zeger, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, chez Mama Édition. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.